à toutes et à tous, ici Romane de Communication. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat avec Radio Onden pour parler d'un véritable sujet de société, les enjeux climatiques. Je suis donc accompagnée de Madame Bastin, enseignante en école élémentaire, qui va nous parler du label École éco-citoyenne. Bonjour Madame Bastin, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Perrine Bastin. Je suis professeure des écoles en cycle 3, c'est-à-dire en CM1, CM2, dans une école élémentaire du Chambon-Feugerolles, une commune située dans la Loire. Cette école est située en REP, c'est-à-dire en réseau d'éducation prioritaire, et elle est labellisée pour la deuxième année école éco-citoyenne.
Quelle définition donneriez-vous d'une école labellisée éco-citoyenne ?
Alors, une école éco-citoyenne, c'est une école qui, en s'appuyant sur les programmes scolaires et en menant des projets pédagogiques concrets, sensibilise et apprend aux élèves à devenir des citoyens éco-responsables.
Selon vous, en quoi ce type d'établissement s'inscrit dans une démarche responsable ?
Pour moi, l'école éco-citoyenne, elle a trois grands rôles vis-à-vis des élèves. D'abord, elle a un rôle de sensibilisation. En effet, elle doit sensibiliser les élèves au sujet du dérèglement climatique. Alors, comme l'éducation au développement durable est une compétence transversale, cette sensibilisation, elle peut être faite aussi bien en sciences, en géographie, en éducation civique, enfin dans plein de disciplines différentes. C'est pas une matière à proprement parler. Donc ça, c'était le premier rôle, un rôle d'abord de sensibilisation. Mais une école éco-citoyenne, elle s'inscrit aussi dans un projet. Un projet à long terme qui va souvent en faveur de la biodiversité. Par exemple, on va installer, entretenir un potager, fabriquer et installer des nichoirs, des hôtels à insectes dans la cour de l'école, par exemple. Voilà. Ensuite, son troisième rôle, c'est quand même celui d'enseigner, afin de faire des élèves des acteurs, qui soient vraiment acteurs dans le développement durable. Donc pour cela, elle peut enseigner avec des partenaires, par exemple, dans notre cas à nous, comme Saint-Étienne Métropole. L'idée, en fait, c'est d'aborder une notion avec les élèves en fonction de leur classe d'âge, à travers plusieurs séances. Par exemple, on parle de leurs connaissances pour les amener à réfléchir sur leurs choix et leurs comportements en tant que citoyens. Alors ces formations, elles peuvent porter sur plein de sujets différents. Par exemple, chez les plus petits, ça peut être sur l'eau de la rivière qui passe dans la commune. Et sur la biodiversité de la rivière. Alors, on va d'abord mener des petites choses en classe et puis à se rendre carrément dans la rivière. On va voir quelles sont les petites bêtes, par exemple, qui vivent dans l'eau. Ensuite, ça peut être sur les déchets. Là aussi, on travaille d'abord en classe. Alors, les élèves, ils ont toujours des connaissances dans ces domaines. Alors, plus ou moins justes ou erronées, mais on part toujours de leurs connaissances. Et ensuite, par exemple, on va les amener à visiter un centre de tri des déchets. Voilà, pour qu'il y ait toujours quand même, dans le cadre de la formation, des choses concrètes, qu'ils se rendent compte de choses concrètes. Et enfin, par exemple, avec les plus grands, on peut travailler, comme on l'a fait cette année d'ailleurs, sur le numérique et le développement durable. Comme c'est des élèves qui ont déjà, par exemple, un téléphone ou qui seront amenés à en avoir un rapidement, on peut les sensibiliser à les différentes étapes de la vie d'un téléphone, de sa construction, de sa fabrication, au moment où il est détruit. Et sur les conséquences, que ça a, du coup, à ce moment-là, sur le climat, mais aussi pas qu'à l'échelle locale, je dirais carrément là, une échelle plutôt mondiale. Ça les amène à voir que finalement, leurs petits gestes au quotidien, ils peuvent avoir des conséquences au niveau mondial, en fait.
J'aurais ensuite une question qui est assez générale. Est-ce que tout d'abord, les élèves, en fait, ils ont connaissance de la problématique liée au dérèglement climatique? Et est-ce qu'avec ce type d'école, ils deviennent plus sensibles à cette problématique?
Donc oui, j'ai envie de répondre oui, que les élèves, comme je le disais tout à l'heure, ils ont déjà des connaissances en ce qui concerne le dérèglement climatique, le développement durable. Alors ces connaissances, ils les ont déjà grâce à leur famille, ensuite par des choses qu'ils ont lues, entendues à la télévision, vues sur Internet. Après, je pense qu'ils sont aussi déjà, par exemple, comme moi, j'enseigne en CM1, CM2. Donc, ce qui signifie que ce sont des élèves qui, déjà, depuis le CP, sont sensibilisés à toutes ces thématiques. Donc, en effet, par exemple, moi, quand j'aborde cela en classe avec eux, ils connaissent déjà pas mal de choses à ce sujet. Ensuite, je pense que oui, pendant les 5 années qu'ils passent dans notre école, qui est donc une école éco-citoyenne, ils vont être amenés à agir et réfléchir au quotidien aux conséquences de leurs actes sur le dérèglement climatique. Par exemple, dans chaque classe, on va trier les déchets, on va les sensibiliser à économiser l'eau, ne pas la gaspiller quand ils se lavent les mains, quand ils vont boire, même aux toilettes. Ensuite, ils sont amenés chaque année à gérer et entretenir le potager, également le respecter puisque les différents petits jardins sont situés dans la cour, donc ne pas marcher dedans, faire attention. Ensuite, ils vont découvrir et respecter la biodiversité. Alors la biodiversité, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, dans la rivière qui passe dans la commune, mais on a un parc à côté de l'école, ça peut être dans le parc. On a également fabriqué avec les élèves, justement avec les plus grands, des nichoirs, des hôtels à insectes qui se trouvent aussi dans la cour d'école. Et enfin, ils sont sensibilisés aux usages du numérique. Donc ça concerne les plus grands. Donc ce sont des élèves, des enfants en fait, qui ont peut-être déjà des téléphones portables, en tout cas qui seront amenés à en avoir rapidement. Et à travers cette sensibilisation en fait, on leur fait découvrir par exemple les étapes de vie d'un téléphone, de sa fabrication à sa destruction. Et ça les amène surtout à réfléchir sur les conséquences là justement de leurs usages et de leur consommation, pas seulement au niveau local, mais carrément au niveau mondial. Voilà, avoir une vision plus large, en fait, de leurs gestes en matière de développement durable. Après, on les amène aussi à essayer, quand je disais tout à l'heure qu'on veut faire d'eux des acteurs, en fait, dans le développement durable, c'est aussi les amener à essayer de sensibiliser les autres. Donc, quand on parle des autres, déjà, en première ligne, ce serait leur famille, par exemple. Donc, je sais pas, par exemple, consommer des goûters avec moins d'emballage. Ils peuvent ramener les piles, les ampoules, les cartouches d'encre usagées de chez eux, parce que dans l'école, il y a des bacs récupérateurs qui sont mis à disposition. Et voilà, ils peuvent aussi utiliser, alors quand je dis ils, c'est les élèves et leur famille, parce que c'est vrai qu'une école éco-citoyenne, elle sensibilise les élèves, mais elle sensibilise aussi les familles des élèves, ça s'arrête pas aux élèves. Donc par exemple, nous, dans la cour de l'école, on a ce qu'on appelle une cabane à dons, donc on peut y mettre, les familles peuvent y déposer des vêtements dont ils ne se servent plus, des jouets, des livres, et les autres familles peuvent les utiliser. Voilà, pour leur donner une seconde vie. Donc des petites choses comme ça, donc c'est être à la fois acteur dans leurs gestes et leurs choix, et aussi un petit peu transmettre ce qu'ils ont appris aux autres, afin de les sensibiliser.
Enfin, j'aurais une autre question, une dernière question. Est-ce que vous estimez que cette mise en place de l'école éco-citoyenne correspond à la montée en fait du débat autour des enjeux climatiques ?
Alors j'ai envie de répondre oui et non. Oui, parce qu'en effet, on est une équipe, parce que je parle d'équipe parce que quand on s'engage dans un projet comme celui-ci, ça peut pas être le projet de quelques enseignants. Il faut que ce soit le projet de toute l'école, mené par la directrice ou le directeur. Donc nous, en ce qui nous concerne, au moment où on s'est lancé dans ce projet, c'était un directeur. Mais c'est vrai que je dirais... Non, parce qu'en fait, on était déjà tous sensibilisés à toutes ces questions. C'est des choses qui nous tenaient à cœur, nous, en tant que personnes, au-delà d'enseignants. Et tout ça, eh bien, on s'est dit à nous, adultes, enseignants, de le transmettre à nos élèves. Et donc, l'idée, elle est venue de là, en partenariat, justement, avec un intervenant de Saint-Étienne Métropole, avec qui on a, je dirais, préparé le projet en amont. Donc avant d'être labellisé, il faut en fait, il y a un projet qui dure 3 ans avec un thème différent pour chaque année. Par exemple, on a travaillé d'abord la première année sur le thème de l'eau, ensuite sur le thème de la biodiversité, et enfin, dernier thème, on a abordé les déchets. Et tous ces thèmes, ils ont été abordés et travaillés de manière différente en fonction du niveau des élèves. On ne peut pas parler des mêmes choses en CP, par exemple, avec des élèves de 6 ans qu'en CM2 avec des élèves de 10 ou 11 ans. Voilà. Donc, je dirais que à la fois oui et non. C'est, alors, bien sûr, on s'est dit qu'il y avait urgence à sensibiliser nos élèves par rapport aux problèmes du réchauffement climatique. Mais à la fois, c'était des choses, nous, qui nous tenaient déjà à cœur et qu'on avait envie de transmettre à nos élèves.
Très bien, merci beaucoup.
Je vous en prie, au revoir.
Merci Madame Bastin d'avoir répondu à toutes nos questions et retrouvez ce podcast sur les différents médias sociaux de communication et on se dit à très bientôt.